EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer sur le grand sujet de comment durer dans la prière. Comment passer du temps avec l'Éternel? C'est sûr que lui, il va pas s'ennuyer. Il est l'Éternel Dieu. Et Dieu aimerait passer du temps avec nous dans sa présence. C'est vrai que la prière n'a pas pour but le temps qu'on doit passer. Mais le temps est une conséquence plutôt naturelle d'une relation qui se veut être profonde. Ceux qui s'aiment bien se fréquentent longtemps, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas la longueur de la prière qu'on en reconnaît l'impact. C'est d'abord pas sa profondeur et son intimité. Mais le temps que l'on prend dans la prière vient naturellement justement par le fait de prier. Et y a-t-il des choses qu'on peut savoir comme enfant de Dieu, disciple de Jésus, pour mieux rester longtemps dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, c'est le deuxième jour où on veut parler de ce sujet. Alors, j'aimerais qu'on se concentre sur ces deux réalités importantes. D'un côté, la rigidité, j'allais dire l'équilibre qu'il y a entre la structure dans la prière, la liturgie et tout ça, et de l'autre côté, la spontanéité. Comment l'Esprit nous guide dans la prière, comme l'Esprit le veut. Doit-on faire un programme de prière pour mieux durer? Ou doit-on juste nous laisser être conduits par l'Esprit comment il le veut? Alors, on va tenter de mettre de l'équilibre entre ces deux-là, entre liturgie et spontanéité. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Trouver une prière équilibrée sous-entend qu'il ne faut pas seulement qu'elle soit froide ou rigide, moins encore confuse et dispersée. Il faudra qu'on mélange à la fois le côté d'un cadre très structuré, mais qui n'est pas figé. Il y a de l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, mais il n'y a pas de l'emprisonnement. Il y a de l'ordre, mais il n'y a pas de la religion. Il y a de la structure, mais il n'y a pas de l'esclavage. Il n'y a pas de l'endoctrinement. La prière devrait trouver de l'équilibre entre à la fois se faire dans un certain ordre, selon un certain rythme, une forme de structure, une sorte de cadre suivi, mais sans que ce cadre ne devienne une façon de l'encadrer au point de l'emprisonner. La prière devait être libre selon la conduite de Dieu et la direction de l'Esprit, mais la prière peut être prévisible. Elle peut avoir des étapes de façon de l'aborder. Il y a au moins la possibilité de savoir par où commencer, même si on ne sait pas comment on va finir. La prière, donc, c'est ce mélange équilibré entre structure, liturgie, forme, étape, mais aussi liberté de l'esprit, conduite du Saint-Esprit comme il le veut. Jésus le démontre bien. Lorsque les disciples vont le voir, lui demandent « Apprends-nous à prier ». Il n'hésite pas de leur apprendre. Quelque chose qui est devenu pour nous tous une structure. Il leur dit, quand vous priez, dites. Il aurait pu leur dire, quand vous priez, que ça vous vienne comme l'Esprit va vous orienter, vous en faites pas. La prière, c'est une activité spirituelle, hein, laissez à l'Esprit vous conduire. Non, non. Il leur a dit, quand vous priez, dites. Il leur donne un certain nombre de choses. Il leur dit, quand vous priez, dites. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La Bible nous montre, en lisant les évangiles, vous sentez que cette forme de prière était finalement mémorisée par le disciple. Il le répète avec une certaine fidélité. C'est presque pareil. Chaque fois qu'on lit les évangiles, on sent qu'il y a une répétition fidèle de ces paroles. Alors, pour durer dans la prière, ce n'est pas combien d'étapes on a fait. Je sais qu'il y a cette technique qui existe. Où on dit, fais 15 minutes d'action de grâce, 10 minutes de confession, 5 minutes pour invoquer la présence de Dieu, 15 minutes pour l'effusion de l'esprit, la consécration au Saint-Esprit, pour que l'esprit te conduise. 10 minutes pour pouvoir prier pour les besoins des autres, l'intercession donc. 5 minutes ou 10 minutes pour parler de tes propres problèmes. Après, tu vas clôturer tout cela par la louange, 15 minutes, 20 minutes. C'est bien. C'est important. C'est utile. Mais ce jour-là, dans l'adoration, tu vas adorer Dieu dans quel attribut? Dans les actions de grâce, en démarrant, tu démarres en disant merci pour quoi? Tu vas intercéder pour qui ce jour-là? Il faut trouver de l'équilibre entre à la fois structure et spontanéité. On n'a pas besoin d'être à 100% tourné à l'une et annuler l'autre. Je sais aussi ceux qui se disent, ah non, la prière, c'est que, tu es dans la présence de Dieu, là, tu viens seulement toi-même, alléluia, et ce qui vient, vient. Oh, c'est un certain degré de maturité. Après avoir été soumis régulièrement à une forme de structure et de liturgie, que vous avez finalement trouvé la spontanéité. J'allais presque dire, vous avez compris le cadre pour ne pas en être encadré. Vous connaissez maintenant les limites et vous savez comment les dépasser. Il faut trouver de l'équilibre entre ces deux concepts. Alors, pour ça, je vous propose quoi? Je vous propose ceci. 1. Souvenez-vous toujours, Jésus a donné un modèle structurant. Je l'ai presque dit tout à l'heure. Jésus lui-même a donné un modèle et un modèle structurant. Matthieu chapitre 9, versets 9 à 10. Matthieu 9, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus apprend la prière, il donne un modèle structuré et structurant. Il montre des étapes. Il aurait pu commencer par dire, voici donc comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous du malin, notre Père qui est aux cieux. Et que c'est à toi qu'appartienne pour la louange et la gloire pour l'éternité. J'ai tenté de mélanger ça. Mais vous sentez qu'il y a une logique dans sa façon de présenter ce dialogue avec le Père. Luc chapitre 11, verset 2. Jésus leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Deux références de l'évangile, on voit chaque écrivain répéter la même prière que Jésus a appris à ses disciples. Jésus a donné un modèle, et un modèle bien structuré, un modèle structurant. Un modèle avec des étapes, un modèle avec une sorte de logique. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire, pasteur Atom? C'est que quand chaque fois que nous prions, nous devons suivre ce modèle-là à la lettre. Non, non, non. Je suis juste en train de vous montrer que la pensée de la structure n'est pas anti-biblique. Et que la pensée d'une logique est inhérente à la prière. Et le fait de pouvoir connaître la logique avant même de commencer à prier, le fait de connaître les possibilités d'étapes avant de commencer à prier, ne fait pas de vous une personne moins spirituelle. Savoir que je peux commencer là-bas et finir là-bas ne veut pas dire que votre prière est dirigée par la chair et non pas par l'esprit. Jésus a donné un modèle structurant. Deuxième vérité. Les psaumes. Ordre et émotion ensemble. Les psaumes incarnent à la fois de l'ordre et de l'expression émotionnelle. Les psaumes sont un très, très bon modèle de prière. D'ailleurs, dans le Tanakh, donc ce que j'appellerais la Bible juive ou bien la partie de l'Ancien Testament que nous avons, vous trouverez que le livre de psaumes est subdivisé en cinq. Il n'y a pas qu'un seul livre de psaumes, il y en a cinq. On les sépare. On appelle ça des Tehillim. C'est à la fois des cantiques, mais aussi des prières. Le peuple d'Israël priait beaucoup jusqu'à aujourd'hui au travers des psaumes. C'est-à-dire, ils font des psaumes leurs prières. Ils s'approprient des prières de David dans les circonstances de leur vie. Et les psaumes, vous trouvez à l'intérieur à la fois les deux choses. Structure et émotion. Il y a la spontanéité de l'émotion du moment qui est exprimée dans la prière, mais il y a aussi de l'ordre de la structure. Ces psaumes sont des chefs-d'œuvre littéraires. Les psaumes sont de poésie bien élaborée. C'est peut-être parce que nous les lisons en français que ça part de gauche à droite. Mais vous les lisez dans le texte original, vous vous rendez compte que c'est super bien structuré. Il y a de la structure, mais il y a de la spontanéité en même temps au niveau émotionnel. Même au niveau spirituel, parce qu'on y trouve de fois des prophéties très fortes. On voit de fois David quitter le « nous » en « je », en « il », en tue, dans un même psaume, David parle à Dieu en le tutoyant et il s'est mis à parler de Dieu à la troisième personne. Tu es mon Seigneur, ma force, mon soutien, l'Éternel arrive et ses ennemis se dispersent. En même temps, il lui parle, en même temps, il raconte une histoire parlant de lui. On sent de la spontanéité, mais on sent aussi de l'ordre. Psaume 103, versets 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aime ça. Il dit, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il prie et il parle à son âme et il fait cette déclaration devant Dieu et dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Use de ta mémoire, cherche à l'intérieur de toi, souviens-toi de ce qu'il a fait. Autant tu vas bénir l'Éternel, mais va chercher dans la mémoire, va chercher dans la partie cognitive, va chercher dans ce qu'on sait. Toi et moi, ô mon âme, va chercher dans les choses que toi et moi, on sait que c'est Dieu qui l'a fait. La spontanéité de la prière n'exclut pas ce côté ordonné. La spiritualité, l'émotivité de la prière n'exclut pas sa rationalité. La prière est à la fois prier humblement en exprimant les sentiments de son cœur, les émotions sont dans la conduite du Saint-Esprit, mais la prière, c'est aussi suivre une certaine forme de schéma et d'ordre dans la manière d'aborder Dieu. Psaume 42, verset 5. Pourquoi t'as battu, mon âme, et je mis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, mon Dieu. David n'a pas honte de dire l'état des lieux de son âme. Il dit, là, là, mon âme est abattue. Et qu'est-ce qu'il fait, David? Il parle à son âme. Waouh! Parmi les temps que nous passons dans la prière, nous ne parlons pas que avec Dieu. Découvrez ici, qu'est-ce qu'il fait David? Il parle pas à Dieu. Il entend de passer tous ces textes ici à parler avec lui-même. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Et il est mon salut, mon Dieu. David, ton âme, c'est qui? Et toi, là, quand tu dis je, c'est qui? Regardez cette conversation que David a. Dans son temps de louange, dans son temps de prière, il démarre au niveau de ses émotions pour trouver un moyen de les laisser être soumis à la vérité. Beaucoup de personnes craignent d'être émotionnelles dans la prière parce qu'ils ont peur de perdre contrôle. Par contre, ici, David, c'est émotionnellement qu'il reprend contrôle de sa prière. Il va vers ses émotions et il parle à ses émotions, dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? En ayant conversation avec sa partie émotionnelle, il replace les vérités éternelles en leur place. Il dit, je louerai encore Dieu. Oh, quel que soit c'est par quoi tu passes à l'intérieur de moi, mon âme, sache que je louerai encore l'Éternel. Mon frère, de fois, dans la prière, tu ne sais plus quoi dire à Dieu. En fait, c'est peut-être le temps de dire quelque chose à toi. C'est peut-être le temps que ton esprit, que le Saint-Esprit mette des paroles pour que toi, tu parles à qui? À toi-même. N'oubliez pas, nous sommes là au courant de cette semaine, on essaie de trouver comment on peut passer plus de temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, l'objectif, vous le savez, on tente ensemble de découvrir l'équilibre qui existe à la fois entre le fait d'être structurel, d'avoir des étapes, mais aussi le fait d'être spontané, de le faire selon qu'on le ressent. On trouve l'équilibre entre les deux en disant que les deux choses doivent être faites. On est en train de confirmer dans la Bible que, un, Jésus a montré un modèle structurant. Deux, on a un exemple des psaumes dans la Bible qui sont à la fois ordre et émotion, qui sont combinés ensemble, spontanéité émotionnelle. Et troisièmement, l'esprit donne la liberté, pas les désordres. L'esprit donne de la liberté, pas du libertinage désordonné. L'Esprit de Dieu nous donne d'être libre, pas désordonné. C'est une chose qu'on confond beaucoup. Et en particulier, je suis obligé de le dire, des fois dans nos églises pentecôtistes, c'est devenu même la norme. La norme est que liberté de l'Esprit égale automatiquement désordre. Dis non, quand l'Esprit vient, il bouscule tout ce qu'on a placé. Qui a placé à la base? Pourquoi ça ne peut pas être lui qui a placé à la base? Dieu ne montre pas toujours sa souveraineté en venant à l'encontre de lois humaines. Non. Des fois, il montre sa divinité en jouant dans les règles des hommes, en étant au-delà des règles des hommes. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, quand il nous apprend à prier, quand il nous guide à prier, ce n'est pas pour semer un désordre en nous. C'est pour nous donner une liberté. Et que rien n'emprisonne notre relation. Quelqu'un m'a dit un jour, moi, je prie tous les jours, comme ça, là, comme ça me vient. Je n'aime pas avoir de, je n'aime pas être dans des règles où je fais la même chose chaque fois. Je l'ai écouté, je lui ai dit, mon frère, j'admire ce que tu es en train de dire. Mais j'ai l'impression que tu dis une chose et son contraire. Non, moi je suis pas, je ne répète pas les mêmes choses. Chaque fois quand j'ai le temps de prier, chaque fois je suis spontané. J'ai dit si, tu répètes chaque fois la spontanéité. Il me disait, ça veut dire quoi? Il dit, tu as une régularité, tu es devenu monotone. Tu répètes la même chose chaque fois. Il dit non, chaque chose c'est différent. Chaque jour c'est différent. J'ai dit oui. Chaque jour, tu répètes le besoin de vouloir être différent. Tu t'es mis dans un autre cycle sans t'en rendre compte. Le but, ce n'est pas de différencier nos façons de parler. Non. Le but, c'est de vivre le moment, de partager avec le Père les réels besoins de nos cœurs, de l'écouter dans sa présence et de l'adorer, et que ça soit en esprit et en vérité. Ça soit véridique d'après la parole et authentique dans notre cœur d'après la nature de ce que nous sommes devenus. Il ne s'agit pas d'aller chercher de grandes formules uniques. Il s'agit juste d'être authentique et sincère. Et le Saint-Esprit ne vient pas nous dire, allez, je vais semer du désordre, l'Esprit de Dieu est là, alors on passe en mode désordre. Non, l'Esprit de Dieu est là, on passe en mode liberté contre toute chose qui est commencé à devenir une religion. Ce que l'Esprit fait en nous, c'est nous empêcher de fléchir nos genoux devant une religion que nous nous sommes nous-mêmes établis, même en matière de prière. Et parmi ces façons de nous emprisonner, nous pouvons nous emprisonner aussi avec l'idée selon laquelle chaque jour ça doit être différent. Maintenant, tu te mets en stress. Tu dis non, qu'est-ce qui peut faire le côté particulier de mon temps de prière d'aujourd'hui pour que je sente vraiment que c'est l'esprit qui a été libre? Hey, respecte la règle. Vous savez, la beauté de la spontanéité, elle vient quand il y a une régularité. Si tout le jour c'est différent, il n'y a donc plus de spontanéité. La spontanéité, c'est l'improvisation du standard. C'est-à-dire que le standard est là et hop, on improvise. Ça, je parle vraiment aux musiciens. On a un standard et on improvise. On a une régularité, on a quelque chose de normal et on devient spontané. Si tous les jours, il n'y a jamais eu des règles, ça ne peut plus s'appeler de la spontanéité. La structure donne toute son avantage à la spontanéité. La structure fait valoriser la spontanéité. L'Esprit donc ne donne pas du désordre, il nous donne plutôt de la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pas désordre, la liberté. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voyez, nous tous qui sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu, nous appartenons à Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit, ne nous amène pas dans la liberté, ne nous rend pas dans les désordres, ne nous perd pas, il nous conduit. Frère, quand nous prions le Seigneur que nous voulons passer du temps avec lui, l'Esprit nous conduit. C'est-à-dire, il y a des étapes, il y a un chemin, il y a un cheminement. C'est pas du désordre, il y a un cheminement, mais sous la direction de l'Esprit. Quand l'Esprit vous conduit, mes frères et sœurs, en toute sincérité, vous serez très étonnés de vous rendre compte qu'il y a bel et bien eu des étapes. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, que ce soit pour enseigner, prêcher ou chanter, il m'est arrivé plusieurs fois de faire des choses spontanées. Et quand j'ai fini, les gens me disent « Ah, mais c'était super bien préparé !» Et j'ai ri au-dedans de moi, j'ai dit « Si vous saviez que rien de tout ça n'est dans mes notes. » De bout en bout, dès la première jusqu'à la dernière phrase, chaque point qui a été cité, vous ne le trouverez pas dans mon iPad. Mais quand vous entendez, vous dites, c'était structuré. J'ai compris que l'Esprit de Dieu peut être spontanément structuré. C'est spontané pour nous. Lui, il sait ce qu'il dit. C'est nous qui avons l'impression que c'est spontané. Mais lui, c'est structuré. Il a une pensée de ce qu'il veut dire. Spontané ne veut pas dire désordonné. Ça veut dire juste dire libre des règles humaines, mais dans la règle divine. Alors, quatrième chose, si l'on veut trouver de l'équilibre entre spontanéité et structure, c'est que trop de rigidité peut éteindre l'esprit. Il y a un moment dans notre vie de prière, on devient plus serviteur de la liturgie que serviteur de l'esprit. C'est ce que l'on craint. On s'est dit, alors, on doit d'abord commencer, je me souviens, au début de ma foi, je priais comme ça, oh, je commence d'abord par dire merci. Seigneur, je te dis merci, je te glorifie, je suivais les étapes de liturgie à l'église que je fréquentais. Après, s'il m'arrivait, après avoir dit merci, et commencé à invoquer l'Esprit, oh, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, et tout ça dans ma vie, Après, je me rends compte, oups, j'avais oublié de demander pardon. Il faut que je demande le pardon à Dieu avant de demander qu'il me remplisse de l'esprit. Parce qu'alors là, je me vide d'abord de tout péché. Après, alors je me remplis de... Trop de rigidité comme ça, mes amis, peut éteindre même l'esprit, peut attrister l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que nous puissions respecter la liturgie. Il est là pour que nous respections le protocole divin. Il est là pour que nous respections le processus pour aborder le Père. Pas pour que nous respections toutes nos étapes que nous avons mises dans notre papier. Ces étapes-là sont intéressantes pour nous guider. Mais ce n'est pas ça le but. Ne faisons pas du moyen un but en soi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 20, il est écrit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » C'est important de voir que Paul parle de ne pas éteindre l'esprit et virgule après, il parle de ne pas mépriser les prophéties. Il parle du fait que dans un contexte collectif, il y a des messages prophétiques qui arrivent. Au lieu d'en arriver au point de se dire « Ah, mais trop, c'est trop, arrêtez vos histoires de prophéties là. » Ne mettez pas un système qui commence à devenir contre l'expression du prophétique dans l'assemblée. Ne devenez pas si rigide au point que l'expression du prophétique meurt dans l'assemblée. Si les prophéties sont données, ne les méprisez pas. Il dit « Écoutez-les, voyez ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Jaugez après. » Ce n'est pas parce que vous craignez que le sol puisse donner des mauvaises herbes que vous allez remplir de cailloux. Et les bonnes herbes, et la semence que vous avez placée dedans. Laissez grandir et différencier les deux choses. Deux fois, nous établissons des règles dans la prière, tellement par crainte d'infiltration démoniaque ou des distractions humaines ou de l'hyperspiritualité, de manque de maturité dans la spiritualité chrétienne. On établit tellement des règles dogmatiques, surtout pour des gens qui sont encore enfants dans la foi, au point que ces règles-là deviennent si rigides que même la vie de prière a disparu. C'est juste une religion. Quelqu'un te dit qu'il a prié parce qu'il a respecté les normes religieuses qui lui ont été données, sans cœur, sans vie, sans un dialogue authentique avec Dieu. Marc chapitre 7, verset 13. Anéantissant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit, vous anéantissez la parole de Dieu par votre tradition. Vous imaginez ce que ça signifie? C'est-à-dire que nous pouvons commencer à faire des habitudes dans l'église qui anéantissent la parole qu'on enseigne. Ah oui, il y a des habitudes ecclésiastiques, des habitudes de groupe de prière, des habitudes personnelles dans la foi chrétienne qui peuvent aller à l'encontre de la parole de Dieu qui nous est enseignée. Et j'aime bien, il parle des traditions, c'est-à-dire de quelque chose qui est collectivement accepté, qu'on a établi ainsi pour aider la société à évoluer. Ok, puisque les gens arrivent des fois au culte un peu en retard, il faut avoir une liturgie pour que celui qui nous rejoint plus tard sache à quelle étape nous sommes. Fantastique, très bonne idée. Mais depuis, la liturgie est devenue Dieu. Elle est devenue si rigide que si on la suit pas, on a certainement commis une erreur. Moi, je me souviens des fois où je finissais de conduire le culte. Après, on me disait, mais tu as quand même conduit avec une erreur aujourd'hui. Hein? Tu dis quoi? C'était quoi l'erreur? À l'étape où de l'invocation du Saint-Esprit, on a pris l'invocation du Saint-Esprit avant de demander nos péchés. De demander pardon pour nos péchés. On doit d'abord demander pardon pour nos péchés. Après, je ne verrai jamais cet exemple-là. Est-ce que c'est la liturgie qui est vraiment la chose la plus importante? Ou c'est l'esprit qui s'exprime? Deux fois, l'esprit nous reproche une chose. Et tout le temps qu'on devait passer là-bas, c'est demander pardon. Deux fois, l'esprit veut juste qu'on glorifie Jésus. Et tout le temps qu'on passait, c'était adorer le Seigneur. Et moi, je me faisais taper sur le doigt parce que souvent, quand je prenais le temps de conduite, on passait tout le temps à adorer. On s'est dit, mais on adore comme ça, mais on n'a même pas demandé d'être rempli du Saint-Esprit. Et dit, mais le culte, on n'avait pas, le jour où il n'y a pas culte en semaine, vous faites comment pour être rempli du Saint-Esprit? On n'a pas dit, allez à l'église pour vous faire rempli du Saint-Esprit. C'est écrit, soyez rempli de l'Esprit. Alors, il peut y avoir des structures, il peut y avoir des liturgies, mais ne les rendons pas rigides au point de tuer cette relation avec le Saint-Esprit. Alors, si ce matin tu n'as pas prié comme tu l'avais prévu de le faire, si la nuit tu n'as pas respecté la liturgie, Dieu n'est pas là en train de compter et dire « Ah, L'étape 2, tu es allé trop vite. Il fallait 2 heures normalement. Non. Le plus important, c'est comment l'esprit te dirige. Plusieurs fois, moi, quand je dois faire un jeûne ou je dois faire une retraite, je fais un petit programme pour que je ne sois pas perdu. Je dis, soit je fais la méthode des 2 heures, soit je fais la méthode de 3 heures. Ça veut dire 2 heures. Je fais 2 heures de prière, 2 heures de pause, 2 heures de prière, 2 heures de pause jusqu'à finir ma journée. Donc, il n'y a pas de moment réel pour dormir si ce n'est pas pour 4 heures du temps. Le maximum, je dors pour 4 heures du temps. Mais le reste, c'est 2 heures de prière, 2 heures de pause. Dans cette pause, soit je me lave, soit je me prépare, soit je vais faire de la méditation en marchant ou quoi que ce soit. Ou je fais la méthode de 3 et 1, c'était 3 heures de prière, 1 heure de pause, 3 heures de prière, ainsi de suite. Mais des fois, je commence à faire mes 2 heures de prière et dans la méditation, je vois que l'heure est arrivée, ma montre sonne, mais je suis en plein en train de consommer quelque chose de spirituellement tellement profond. Qu'est-ce que j'ai fait? L'heure a sonné? Non! Je reste là, j'entre jusqu'au fond et après, c'était même l'heure de la pause, mon esprit est déjà en position de prier, je brille. La liturgie, elle est là pour nous guider, pas pour s'imposer à nous. Alors, cinquièmement, retenez ceci. Dieu cherche la sincérité, pas la perfection. Entre structure et spontanéité de l'esprit, sachez-les très bien, Dieu n'est pas en quête de la perfection. Il ne veut pas voir de prière alignée de 15 minutes, de 10 minutes avec un programme bien précis qui a commencé par des acclamations et qui finit par des acclamations et pendant lesquelles on a chanté les chansons la chanson la plus aimée ou qu'on s'est assis et qu'on s'est agenué parce que c'était le moment d'adoration. Dieu ne cherche pas notre perfection. Il sait qu'on n'en a pas, les amis, on n'en a pas. On donne l'impression d'en avoir, on n'en a pas. Derrière la beauté de la lumière de nos églises, les images bien faites, nos tenues bien habillées et nos langages si bien soignés, la quête, ce n'est pas faire des fautes d'orthographe, ni de grammaire, ni de conjugaison. Dieu sait qu'il n'y a pas de perfection à l'intérieur. Il n'y en a pas. Il ne cherche pas ça. Il veut juste la vérité, la sincérité de notre cœur. Que ce que nous sommes en train de dire soit authentique à l'intérieur de nous. Que nous le voulions vraiment, que nous le désirions vraiment, que nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1 à 2 dit, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Il dit, « Quand tu veux parler, ne te précipite pas, hey, tu parles à Dieu et Dieu est dans le ciel. » Toi, tu es sur la terre. Attention sur les choses que tu reprends. L'homme d'Ecclésiaste est en train de dire, Dieu connaît des choses que tu ne connais pas. Alors, t'amuse pas à te mettre à parler comme si tu savais tout. Soigne bien tes mots. Choisis ce que tu dois dire. Psaume chapitre 51, verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le cœur. Quand l'homme d'Ecclésiaste dit attention sur ce que tu dis, Dieu voit tout de là où il est. T'aimes pas parler des choses qui sont pas dans ton cœur. Le psalmiste lui dit par contre, quand quelqu'un a un cœur à l'intérieur de lui qui est brisé, Dieu, un esprit brisé, ça, c'est ça ce que Dieu aime. Pas les sacrifices. Il n'y a pas de sacrifices humains qui puissent être agréables ou qu'on brûle quoi que ce soit. C'est les cœurs que Dieu est en train de regarder. Mes amis, Dieu ne vise donc pas que nous soyons parfaits dans notre structure. Il vise que nous soyons sincères. Et authentique. Laissez-moi prier avec vous. Abba, nous disons beaucoup aux gens que nous voulons prier ou nous avons prié ou nous savons prier. Mais il arrive à un moment donné, on a l'impression qu'on fait du surplace. On prie, mais on sent qu'on ne grandit plus dans notre façon de prier. Si j'ai une chose à te demander aujourd'hui, Père, aide-moi ainsi que mes frères et sœurs à grandir dans la prière. À se rendre compte que liturgie et spontanéité, eh bien, ça va de pair. On n'a pas besoin d'abandonner l'un au bénéfice de l'autre. Apprendre à mettre l'un au service de l'autre, en sachant quelle est la priorité. C'est d'abord le cœur et non pas la perfection. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse et à demain.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.